France Inter, le 18-20.
Avec une édition spéciale du 18-20 au lendemain du premier tour de la présidentielle, gros chantier sur lequel réfléchir dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Il y a évidemment le résultat qui mérite en lui-même commentaire, mais aussi l'élimination des deux principaux partis de gouvernement, le PS et les Républicains. Dans les deux cas, la reconstruction va prendre du temps et sera douloureuse. Sur l'abstention, la carte électorale de ce premier tour, la sociologie des électeurs d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, sur les perspectives de second tour et puis tout simplement sur votre sentiment après ce premier tour. J'attends vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et on file tout de suite au standard où nous attend Françoise. Françoise qui nous appelle de Corrèze. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir monsieur.
Nous vous écoutons Françoise.
Et bonsoir à vous tous, vous êtes mes amis qui m'accompagnaient toute ma journée.
C'est gentil.
Je voulais simplement vous dire monsieur que je suis totalement désemparée. La Corrèze a voté en priorité pour monsieur Mélenchon. Donc je suis désemparée parce que je ne sais pas comment faire pour ce deuxième tour, pour être correcte avec l'idée que je me fais de ma France. Voilà. Monsieur Macron ne nous représente pas. J'ai écouté hier soir son discours. Ça m'a paru une telle imposture que je ne suis pas possible. C'est pas possible que je vote pour lui. J'avais voté au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon, mais je ne peux pas voter pour lui au deuxième tour. Cet homme ne me représente pas. Il a représenté la banque. Vous avez vu, bien sûr, que la bourse, ce matin, a fait un bond extraordinaire. Et alors, voter blanc, voter nul, m'abstenir, ça n'a aucun sens. J'en suis en train de réfléchir à voter pour Madame Le Pen, alors que c'est contraire totalement à ma pensée profonde, profondément. Je suis antiraciste, je suis anti-xénophobe, je suis anti-sortie de l'Europe. Mais monsieur, il va falloir qu'il y ait des législatives. Il va falloir qu'il y ait ensuite un gouvernement. Et en tant que femme normale, je me dis que Madame Le Pen ne pourra pas gouverner car elle n'aura pas de majorité. Donc, je me dis que je vais peut-être voter Madame Le Pen pour qu'elle soit empêchée de gouverner et que nous sortions de la 5e République et que nous entrions enfin dans la 6e.
Merci,
voilà, messieurs.
Merci Françoise. Restez en ligne, le dialogue va s'amorcer avec Gaël Slimane. Bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'Institut de sondage Odoxa. Lénaïque Bredoux, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à Mediapart. Rémi Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'Université de Lille 2. Chercheur spécialiste du PS, des primaires et de la démocratie participative. Françoise se disait désemparée. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire au deuxième tour. Elle qui a voté Jean-Luc Mélenchon au premier, elle se pose la question d'un vote en faveur de Marine Le Pen, qui veut se saisir de ce sentiment et de cette perspective, Rémi Lefebvre, peut-être, deuxième tour.
Écoutez, on a eu un beau témoignage de cette auditrice qui est un peu à l'image du désarroi de beaucoup d'électeurs, hein, qui sont complètement désorientés par cette campagne hors norme, qui défie un petit peu les identités classiques, les identifications, une offre politique compliquée, fragmentée, et puis des sommations comme ça à voter utile ou par défaut. Et donc notre auditrice a déroulé un petit peu le fil de sa réflexion, de sa perplexité, qui est celle de beaucoup de Français. Alors c'est vrai que c'est un peu étonnant de voter Mélenchon au premier tour et d'envisager de voter Marine Le Pen au second, mais au fond, pour nous commentateurs et analystes, cette élection est un défi. On voit bien qu'elle bouscule beaucoup de réflexes qui étaient ceux des électeurs jusque maintenant.
Lénaïque Bredoux sur le témoignage et la question de Françoise.
Non mais effectivement, ce que l'auditrice explique, c'est ce que beaucoup d'électeurs ont exprimé depuis le résultat d'hier. Beaucoup d'électeurs de gauche notamment, qui ont beaucoup de mal à se dire que pour la deuxième fois en 15 ans, ils doivent voter à droite. Parce qu'à leurs yeux, ils considèrent que Emmanuel Macron, malgré ce qu'il dit de lui-même, est à droite, veut mener une politique libérale, qu'il combatte et dont ils sont convaincus qu'elle est une des racines du Front National. D'ailleurs, il y a quand même deux candidats Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon qui ont expliqué pendant cette campagne que, pour le dire un peu rapidement, une victoire d'Emmanuel Macron cette année signifierait le Front National 5 ans plus tard. Bon alors, après là où il y a un paradoxe, c'est de dire que c'est pas grave s'il arrive tout de suite, mais en tout cas, c'est de dire, en tout cas cette préoccupation-là, elle est différente de ce point de vue-là de ce qu'il y a eu en 2002. C'est-à-dire en 2002, il y a un effet de choc, là tout le monde s'y attend, du coup la surprise, la violence du choc n'est pas du tout la même, et en plus la conviction chez certains de ces électeurs que effectivement poursuivre ces mêmes politiques conduiront à de toute façon renforcer le Front National.
Gaëlle Slimane, passer du premier tour avec un vote Jean-Luc Mélenchon au second tour avec un vote Marine Le Pen, c'est une exception ou ça existe ?
Les deux, c'est une exception et ça existe comme toute exception. On peut même le chiffrer dans le sondage qu'on avait réalisé juste avant le premier tour et qui était assez juste, donc je profite de cette antenne pour le rappeler, puisqu'il y a eu beaucoup de débats sur les sondages, on a fait pas mal de sondages bashing. Dans ce sondage,
ici même,
sur l'abstention et sur les intentions de vote qui étaient assez justes, on a demandé aux électeurs ce qu'ils allaient voter au second tour. Donc au-delà du petit satisfecit rapide, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir ce qu'étaient les reports de voix. Et les reports de voix de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est 57%, dans le cas d'un duel Macron-Le Pen, c'est 57% qui disent « je voterai Emmanuel Macron », et c'est 18% qui disent « je voterai Marine Le Pen ». Un quart nous dit « bah moi, entre la peste et le choléra, je m'abstiens ». Ce qui fait que l'auditrice qu'on vient d'entendre, elle est assez atypique. Et d'ailleurs, la prise de position qu'a eu Jean-Luc Mélenchon hier soir, elle risque d'abîmer largement le très beau succès qui a été le sien au soir du premier tour, parce que l'immense majorité de ses électeurs, probablement, contrairement à l'auditrice qu'on vient d'entendre, ne le comprendront pas. Je veux juste ajouter une chose sur l'abstention. On avait aussi évalué le niveau de l'abstention et surtout essayer de comprendre pourquoi on s'abstient. Et alors, il y a une chose qu'il faut rappeler ici à cette antenne, c'est qu'il y a une singularité quand même. Les trois quarts des abstentionnistes, nous, des gens qui disaient « je vais m'abstenir », nous donnaient des raisons positives de l'abstention. C'est-à-dire nous disaient « j'ai étudié les programmes, je suis la politique, je regarde les débats, mais il n'y a personne qui me convient ». Et il n'y a seulement qu'un quart des abstentionnistes qui nous disaient un peu à l'image du livre d'un confrère, moi je suis un praf, plus rien à faire, et donc c'est pour ça que je m'abstiens, parce que la politique ne peut pas changer les choses.
On retourne au standard, beaucoup d'auditeurs d'Inter nous téléphonent ce soir. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Voilà, je voulais témoigner déjà de ma déception et de ma colère quant au résultat du premier tour. Je suis vraiment, vraiment effarée par le choix qui nous est imposé au second tour, auquel du coup je ne vais pas répondre parce que j'ai décidé de m'abstenir. D'autant que j'ai trouvé vraiment, choquant la réaction d'Emmanuel Macron, comme si il avait gagné déjà les élections. Or, c'était que le premier tour. Et puis, je trouve que c'était une attitude qui est complètement décalée par rapport à la gravité du moment présent.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quoi pavoiser. Il n'y a pas de quoi pavoiser pour vous.
Pas du tout, non. Non, pour moi, il n'y a pas de quoi pavoiser. En plus, bon, bah ça, c'est mon avis, mais je comprends pas comment il peut recueillir autant de voix en si peu de temps avec un programme qui est si, pour moi, c'est ça.
Vous n'êtes pas convaincue.
Ah non, je suis pas du tout convaincue. Je suis même très déçue. Je vais pas voter. Et en plus, j'aime pas cette attitude vraiment. Je trouve qu'elle est complètement inappropriée et vraiment pas adaptée à la situation. Je trouve que c'est de très mauvais augure sur la suite des événements. Déjà, je crois pas en lui, mais quand je vois cette attitude de vainqueur, je trouve que c'est vraiment déplacé. Il faut être un petit peu modeste.
Et voilà, donc vous n'irez pas, Dominique.
Aux choses et pas comme ça.
Dominique, vous n'irez pas. Vous êtes certaine de ne pas aller voter.
À ce jour, oui, j'ai pas du tout envie parce que j'en ai marre, si vous voulez, de voter. À contrario en fait de mes sentiments, pour éviter quelque chose, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut mettre en place une stratégie de vote. Moi, j'en ai marre, je l'ai fait, je l'ai refait. J'en ai marre, en fait, j'ai plus envie, quoi. J'ai envie de dire non, je marche pas là-dedans, quoi. J'ai plus envie, quoi. J'ai plus du tout envie.
Merci, merci Dominique pour votre appel. Fatigue démocratique, retrait hors de la sphère du vote, en tout cas pour un deuxième tour où, à nouveau, nous dit Dominique, il va falloir voter contre et non pas pour. Je vous livre le témoignage, Rémi Lefebvre.
Oui, c'est de la fatigue démocratique, effectivement. C'est cette idée que, finalement, il faut procéder à un calcul sophistiqué. Finalement, est-ce qu'on se retrouve dans ce calcul au bout du compte ? Sur Emmanuel Macron, c'est vrai que on a a tous été, je pense, beaucoup d'observateurs surpris par ce manque de décence finalement d'Emmanuel Macron hier soir. Un discours, une longue déclaration qui était quasiment un discours de victoire, qui enjambait le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et puis ces images en termes de communication assez catastrophiques où on le voit dans une brasserie parisienne entre ses soutiens et c'est sans doute ses futurs membres de son équipe présidentielle. Voilà, il y a quelque chose de fragile quand même dans ce vote Macron au premier tour. On sait bien que c'est un vote très hétéroclite, que c'est un vote hétérogène. Il y a un peu d'adhésion, il y a beaucoup quand même aussi de votes par défaut dans ce vote. Donc il y a vraiment pas de quoi finalement s'enorgueillir de ce socle. Et on se dit quand même avec une certaine inquiétude que si Emmanuel Macron est élu président de la République, ce qui est fort probable, dans quelle situation politique on va se retrouver. C'est-à-dire finalement le socle du président de la République, ça sera ce petit score de premier tour, cette légitimité fragile, et cette élection a été quand même globalement la balkanisation de toute une série de légitimités et de votes qui est quand même assez inquiétante pour la démocratie française.
Lénaïque Bredoux.
Mais cette fatigue démocratique dont on parlait, dont témoignait l'auditrice, elle peut aussi être louée à cette fatigue liée à la Ve République, à la présidentialisation à outrance qui conduit justement à ces votes stratégiques, parce que du coup on choisit, on élimine, mais en fait maintenant on élimine dès le premier, puis on choisit, bon bref, un truc qui finit par ne plus avoir de sens.
Oui, ajouter les deux primaires et les législatives qui suivent, et c'est une élection à une demi-douzaine de tours.
Ouais, on serait dans un régime parlementaire, ou en tout cas avec plus de place probablement, où les législatives ont un rôle plus important, ce serait totalement différent, y compris dans ce que ça représenterait ensuite dans la politique menée dans les 5 ans qui viennent, parce que là, effectivement, il y a quelque chose d'assez étrange, et on voit bien dans les choix des électeurs, quand on voit les succès d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon, qui tous les deux, par des moyens très différents, avec des analyses très différentes, ont fait une campagne en dehors des partis traditionnels, avec une mobilisation sur le terrain de gens nouveaux qui se sont impliqués dans leur campagne, etc. Et l'éclatement du Parti Socialiste et de LR à cette élection, on voit bien qu'il y a aussi un appétit pour autre chose.
Gaël Slimane.
Ouais, il y a un appétit pour autre chose. C'est vrai ce que Rémi Lefebvre a dit sur la fragilité qu'on a constamment mesurée, paradoxalement, d'Emmanuel Macron, qui était depuis très longtemps le favori des sondages, mais un peu à l'instar d'Alain Juppé pendant la primaire de la droite, un favori fragile. C'est-à-dire que quand on creusait derrière, on avait des personnes interrogées qui nous disaient « Mais attendez, déjà, pour ceux qui étaient électeurs de droite, moi j'avais prévu de voter à droite. 34% d'intention de vote François Fillon en décembre dernier, dans la foulée de sa victoire à la primaire de la droite. » Donc une bonne partie de son électorat, presque la moitié, a disparu entre l'abstention, pour les plus radicaux, le vote FN, et pour une partie, un vote Macron, mais qui est un vote par défaut pour ces gens-là. Et puis aussi, Macron a bénéficié, pour partie, d'un vote utile de gauche, c'est-à-dire que le pauvre Benoît Hamon, qui a fait un score famélique, un des deuxièmes plus bas scores du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, il a été pris, alors si je veux faire un jeu de mots, entre la faucille et le marteau, entre le marteau et l'enclume, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, parce que progressivement, les électeurs de gauche se sont dit « Mais attendez, on a un Emmanuel Macron qui effectivement est trop à droite pour nous, mais qui a peut-être une chance de nous éviter un duel entre François Fillon et le Front National. » Et donc, il a bénéficié de ça. C'est à cause de cette fragilité qu'il devrait être beaucoup plus prudent dans les signaux qu'il envoie, comme ceux qu'il a envoyés hier soir, à la suite de ce qui n'est qu'une victoire de premier tour pour le moment.
Joseph est en ligne et dans les embouteillages. Bonsoir et bienvenue sur France Inter.
Oui, bonsoir et merci de prendre mon appel.
Je vous en prie.
Je pense que le fait majeur de ces élections, c'est qu'un Français sur deux a un vote extrême. Et ça, c'est très grave. Je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est autant le vote Mélenchon ou le vote Le Pen. C'est plus que des votes anti-système. C'est alors que les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui on est en France, on est dans un pays dans un des pays du top 10 dans le monde où on vit bien, où l'accès aux soins est garanti, il y a l'école pour tout le monde. On a quand même beaucoup de choses. Et je trouve que donner son vote à des gens qui veulent tout raser, alors que ce système-là, depuis l'après-guerre, ça fait 70 ans qu'il existe. Il n'est pas parfait, il faut l'améliorer. Mais tout en fait, c'est très dangereux. C'est comme si, à un moment donné, les gens qui, malheureusement, n'arrivent pas à s'en sortir et tout, malgré les... Parce que c'est comme ça, le système n'est pas parfait. Eh ben, ils veulent tout raser parce qu'ils trouvent que la situation est trop injuste pour eux. Et c'est de mettre une balle dans la tête collectivement.
Bien reçu, Joseph. C'est vrai, merci pour votre appel et on vous laisse sortir de votre embouteillage. C'est vrai, Gaël Slimane, que quand on fait la somme de tous les candidats, quel que soit le clivage gauche-droite, mais en tout cas des candidats dits anti-système ou très eurosceptiques, on arrive quasiment à 1 sur 2.
Oui, et encore, je pense que il faudrait prendre quelques précautions quand on additionne les scores de Jean-Luc Mélenchon de premier tour à ceux de Marine Le Pen, parce que pour une large part du score de Jean-Luc Mélenchon, je rappelle qu'il partait de 10-11% dans les sondages il y a quelques mois, donc une bonne partie du score qu'il réalise est un score qu'il doit à des électeurs classiques socialistes et qui ne sont pas des électeurs ultra-radicaux, en tout cas moins que ne peut l'être dans ses discours Jean-Luc Mélenchon. Mais là où l'auditeur a raison, c'est que ça peut quand même faire 50%, parce qu'une bonne partie des électeurs qui ont voté François Fillon, qui représente normalement un parti entre guillemets bourgeois installé, les Républicains, étaient des électeurs presque anti-système, à contester la justice, le rôle des juges, les journalistes, les sondages, à estimer qu'il y avait des complots contre leurs candidats.
Il y avait une colère.
Donc il y avait une colère
contre le système entre guillemets.
Et il y a effectivement une colère anti-système sur laquelle tout le monde essaye de surfer. Mais la morale de l'histoire, c'est que quand on essaye de surfer sur la colère anti-système et qu'on est objectivement un tenant d'un grand parti de gouvernement, de gauche ou de droite, eh bien, on finit par faire grossir ceux à qui on voulait capter des voix. Nicolas Sarkozy l'avait vécu à ses dépens à l'égard du Front National en 2012. Et là, François Fillon vient d'en faire la mère expérience.
Rémi Lefebvre.
Oui, moi je rejoins pas l'auditeur dans cette espèce d'agrégation des extrêmes. Hein. Je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Moi, ce qui me frappe dans cette campagne, c'est qu'il y a eu des expressions de radicalité. C'est-à-dire qu'il y a eu une campagne finalement assez radicale. Hein, tant par exemple dans le programme d'un Fillon, qui n'avait jamais été aussi ultra-libéral. Hein. Gaël Sliman évoquait tout à l'heure les 34% qui étaient l'apogée sondagière de François Fillon. D'un certain point de vue, cette anticipation d'une victoire assurée pour Fillon a amené la droite à charger la barque et à vraiment dire voilà, cette fois-ci on va la faire, la révolution thatchérienne et libérale. Donc on a eu un discours de droite très libéral. On a eu aussi de la radicalité chez Benoît Hamon, hein, c'est-à-dire concrètement le revenu universel, c'est quand même pas rien. C'était peut-être sans doute un des éléments de la débâcle de Benoît Hamon, parce que peut-être une idée d'avant-garde qui avait du mal à s'installer dans une campagne aussi peu centrée sur les enjeux. Et donc, il y a eu évidemment la radicalité du discours dégagiste, écologiste aussi de Mélenchon. Voilà, donc finalement, le seul candidat modéré, c'était Emmanuel Macron, qui au fond, et c'est un des paradoxes de ce scrutin, c'est quand même le candidat qui se retrouve le plus proche de la ligne politique de François Hollande. Je ne parle pas celle du meeting du Bourget, mais plutôt la ligne du tournant de la politique de l'offre qu'a d'ailleurs impulsé Emmanuel Macron lorsqu'il était secrétaire général adjoint à l'Élysée. Et finalement, au bout du compte, dans cette campagne anti-système, c'est la ligne politique de François Hollande qui est confortée, qui triomphe à travers Emmanuel Macron. Donc c'est vraiment le moindre des paradoxes de ce scrutin hyper radical dans l'offre politique et qui au fond accouche d'une offre politique assez molle, assez consensuelle, assez modérée.
Lénaïque Bredou.
Non, mais effectivement, l'expression de ces radicalités, elle correspond aussi, malgré ce que l'auditeur disait, à un sentiment de colère de beaucoup d'électeurs. Il faut quand même si effectivement on vit mieux en France que dans plein de pays du monde, il n'empêche qu'il y a des millions de pauvres, des millions de chômeurs, des gens qui n'ont plus vraiment accès à la santé, qui n'ont plus vraiment accès à l'école républicaine au sens de l'égalité des chances où ce seraient les mêmes conditions pour étudier qu'ailleurs, et qui ont un sentiment de déclassement, qui vivent aujourd'hui moins bien, enfin, qui ont l'impression que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, qui est quand même quelque chose qui crée forcément une angoisse, une inquiétude et une colère par rapport à des politiques dont ils ont l'impression qu'elles ne changent pas leur vie. Et ça, ce sentiment-là, il est puissant parce qu'il est sans cesse confirmé. Donc,
oui, et il n'a pas été purgé par le premier tour.
Ça sédimente. Quoi.
Et sur les indicateurs de morale économique.
Le standard.
Sur les indicateurs de morale économique, d'ailleurs, on voit qu'il y a un déclinisme ambiant. Alors vous avez raison, il y a des gens qui vivent. C'est mesuré statistiquement par l'INSEE des situations objectives de détresse, mais y compris dans des catégories de population que, rapidement comme ça, on pourrait catégoriser comme des gens aux revenus moyens supérieurs plutôt à l'aise, on note ce sentiment très puissant de déclassement. Et c'est vrai que beaucoup de politiques ont essayé de surfer là-dessus, sauf que c'est la logique des niches en marketing. Hein. Si vous êtes le seul à être sur une niche qui correspond aux attentes de l'auditeur qu'on vient d'entendre, en disant bon bah essayons de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ce qui était un peu le cas d'Emmanuel Macron, eh bien on ramasse la mise.
Émilie, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Écoutez, voilà.
Non mais vous pouvez le faire à deux voix, hein, Émilie, il n'y a pas de problème.
Écoutez, j'ai voté pour Benoît Hamon au premier tour et je suis absolument désolée et surtout révoltée par... l'attitude des membres du Parti Socialiste qui veulent maintenant reconstruire un Parti Socialiste sans, d'après ce que j'ai cru comprendre, sans tenir compte des votes des militants qui ont élu Benoît Hamon à la primaire. Donc je pose la question, avec qui compte-t-il reconstruire ce parti et est-ce que nous, les sympathisants socialistes, allons enfin pouvoir compter Voilà.
Bon, votre enfant va bien quand même?
Absolument. Elle voulait manger des petits chocolats de Pâques.
Bon, bah, bon appétit et merci pour votre intervention, Émilie, dans le téléphone sonne. Nous avons un orfèvre du Parti Socialiste ici, Rémi Lefebvre.
Oui, bah, ce sentiment de cette sympathisante socialiste qui se sent trahie par finalement les dirigeants du parti qui n'ont pas respecté la règle de la primaire. C'est pas les militants qui ont décidé, comme elle vient de le dire, de voter pour Benoît Hamon. C'est les sympathisants. Ils ont quand même été nombreux. Il y a quand même eu près de 3 millions de participants à cette primaire qu'on attendait peu mobilisatrice. Voilà, bon, ça a été évidemment un des éléments de la défaite de Benoît Hamon, cette attitude absolument incroyable hein, de dirigeants, et notamment Manuel Valls, qui s'était engagé à soutenir Benoît Hamon, qui en pleine campagne, après être apparu avec Benoît Hamon et Jean-Christophe Cambadélis, on se souvient de l'image, décide de soutenir Emmanuel Macron. C'est vrai qu'un parti politique, ça suppose un ensemble de règles collectives. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Valls a pu dire aux frondeurs qu'il était frondé lui-même et qu'il avait aussi lui dérogé et transgressé les règles. Mais donc finalement, dans ce parti, on ne respecte plus les règles. Et un parti politique, c'est une communauté de règles. Évidemment, on peut douter de l'avenir du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste tiendra peut-être jusqu'aux élections législatives, peut-être. Mais après les élections législatives, l'heure évidemment de la clarification organisationnelle, à mon avis, va arriver et elle risque d'être sanglante pour ce parti qui a plus d'un siècle.
Elle va être terrible, Lénaïque Bredoux, la reconstruction du PS ou en tout cas l'inventaire post-présidentiel et législatif.
Ah bah, au vu de ce qui s'est passé pendant la campagne, je ne vois pas très bien comment ça peut se passer parce que c'est pas uniquement des désaccords. En 2007, quand Ségolène Royal fait sa campagne, il y a une partie des dirigeants socialistes qui n'est pas très à l'aise avec sa campagne. Ils renaclent, ils font pas trop. Il y en a un qui décide de voter Nicolas Sarkozy, c'est Éric Besson, ça s'arrête là. Là, on n'est pas dans cet ordre-là. On n'est pas dans des gens qui renaclent. On a des gens qui ont quasiment systématiquement, pendant 3 mois, finalement saboté la campagne du candidat de leur propre parti. C'était quand même assez spectaculaire à observer parfois. Alors, parfois pour des bonnes raisons, c'est pas le sujet, mais c'est juste que c'était quand même assez fort quand même. Et aujourd'hui, on voit bien, ils ont tous un avis complètement opposé et différent de ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Donc, il suffit d'interroger 3 socialistes dans une salle, même au sein de l'équipe de Benoît Hamon, pour avoir 3 versions différentes de comment faire autre chose. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous d'accord sur un point. Il faut une recomposition du Parti Socialiste. Parfois même un nouvel Épinay du 1971 après justement la baffe de Gaston Defferre en 69.
Gaël Slimane, puis on retourne au standard. Michel nous attend.
C'est difficile d'imaginer autre chose qu'une implosion ou qu'une scission effectivement après les législatives, parce que au-delà des divisions, et il y en avait eu d'autres par le passé, vous l'avez évoqué, il y a aussi 2 lignes idéologiques qui se fracturent. Et contrairement à ce qui s'est passé en 2007, il existe des alternatives politiques extrêmement puissantes. C'est-à-dire, comment un parti socialiste pourrait-il continuer d'exister en ayant une position mi-chèvre, mi-chou, intermédiaire entre le Parti démocrate qui est en train de fabriquer, bon an mal an et sans le dire, Emmanuel Macron avec En Marche, un parti démocrate à l'anglo-saxonne, un parti travailliste à l'anglaise si vous voulez, et un mouvement qui ressemble, qui s'inspire de Podemos, de Syriza, du côté de Jean-Luc Mélenchon et qui a fait ses 20%. On a quand même le sentiment que tout ça va conduire à une scission du Parti Socialiste, surtout si les législatives sont aussi ratées que cette présidentielle.
C'est ce qu'avait dit Régis Debray au micro de France Inter il y a quelques années. On a les Républicains, il nous manque plus qu'un parti démocrate et on sera aux États-Unis. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Alors, j'aurais souhaité poser donc 2 questions à vous inviter, à savoir, ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées n'a-t-il pas permis d'apporter de nouvelles voix, pardon, au Front National. Et la deuxième question, si M. Mélenchon avait accepté l'union avec M. Hamon, est-ce que ça n'avait pas permis d'effacer automatiquement Marine Le Pen du second tour de la présidentielle ?
Merci Michel. On va commencer par la deuxième question. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, s'ils avaient fait alliance, Marine Le Pen ne serait pas au second tour. Lénaïque Bredou ?
C'est très difficile de répondre à cette question. Les électorats s'additionnent pas de façon automatique et mécanique. Par ailleurs, j'ai un vrai doute, c'est que vu le score qu'a fait Benoît Hamon, ceux qui n'ont pas voté Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron probablement ne l'auraient de toute façon pas fait parce qu'il a fait 6%. C'est vraiment le cœur de ceux qui vraiment voulaient voter pour lui. Donc on peut quand même penser qu'il y a toute une partie de ces gens qui de toute façon n'auraient pas voté pour Jean-Luc Mélenchon.
Rémi Lefebvre.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a réussi à siphonner quasiment l'intégralité du score de Benoît Hamon. Donc est-ce qu'il y avait encore des réserves pour lui pour passer le cap du premier tour ? Est-ce que ses électeurs, s'il y avait eu un accord, mais qui était très improbable, concrètement, c'était pas possible. Je veux dire, concrètement, politiquement, je pense que c'était pas jouable. Est-ce que les électeurs auraient suivi ? Est-ce qu'ils n'auraient pas renforcé plutôt Emmanuel Macron ? Voilà, on peut toujours faire de l'arithmétique ex post. Je pense que globalement, on est dans cette situation qui paraît un peu surréaliste parce qu'effectivement, si on additionne les électorats, on arrive très largement au-dessus même de Macron. On pourrait dire la même chose pour Dupont-Aignan et Fillon. Hein, finalement. Fillon.
Oui, la dispersion des voix, ça marche à droite
voilà,
aussi.
Voilà, donc la dispersion des voix, c'est aussi un effet d'offre et aujourd'hui, c'est aussi la réalité de cette vie politique française avec un système partisan qui n'est pas forcément en prise, en fait, avec les clivages idéologiques et aussi les électorats qui sont désalignés par rapport à cette offre partisane.
Alors, un mot peut-être sur les Champs-Élysées, Gaël Sliman, et un peu plus long sur Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon.
Alors un mot sur les Champs-Élysées, il se trouve qu'à Odoxa, on a réalisé un sondage qui était, c'était notre dernière intention de vote théoriquement, qui était faite le jeudi en se disant très bien, on va sortir notre sondage le vendredi matin, un gros terrain, 1500 interviews, on a notre intention de vote et puis survient ce que vous savez sur les Champs-Élysées, donc on relance un deuxième terrain le vendredi et on a fait une comparaison avant-après. Donc on a mesuré exactement le avant-après, en l'occurrence, je vous rappelle les marges d'erreur statistiques des sondages, etc. Hein, on avait moins 0,5 pour Mélenchon et Fillon entre le terrain après les Champs-Élysées et le terrain avant, et plus 1 pour Marine Le Pen. Elle est passée de 22 à 23 entre les deux terrains. Vu qu'elle finit autour des 22, ça veut dire qu'il y a peut-être eu un micro-phénomène, et encore à vérifier, mais qui est retombé. Donc la réponse, c'est non. Les Champs-Élysées, comme précédemment Mohamed Merah ou tous les autres faits divers, en France ou ailleurs, à l'exception de la gare d'Atocha à Madrid pour Aznar, mais c'était très particulier, les faits divers qui surviennent avant les élections ne changent pas la donne. Et après, pour Mélenchon et l'addition des scores de Mélenchon et Hamon, je suis évidemment d'accord avec ce qui a été dit sur la difficulté, voire l'impossibilité d'additionner. Il y a quand même un truc pour les auditeurs qui reviennent régulièrement sur ces questions. Hein. C'est vrai que les deux, à eux deux, ont constamment fait pendant des mois un score supérieur à 25%. Et que, faut se souvenir qu'au début, c'était Benoît Hamon qui demandait, qui était au-dessus de Jean-Luc Mélenchon et qui demandait à Jean-Luc Mélenchon son soutien. Alors peut-être que si ça s'était joué dans ce sens-là, ça aurait pu jouer, mais on ne le saura jamais.
On retourne au standard. Bonsoir Mathieu.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Chartres, bienvenue.
Je vous appelle de Chartres, absolument. Voilà. Moi, j'avais une petite constatation, et au-delà de ça, un constat un peu plus national. C'est-à-dire que moi, je me retrouve avec des amis depuis hier soir qui disent « Mais moi, j'irai pas voter. J'avais pas voté pour Macron, alors que ces gens-là défilaient avec moi en 2002 contre la présence de Le Pen au deuxième tour. » Donc, ma question est la suivante. D'abord, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils rencontraient leur moi de 2002? Comment ils justifieraient ça? Et qu'est-ce qui fait que le Front National s'est à ce point-là banalisé pour qu'il n'y ait aucune manifestation, que tout le monde trouve ça normal et qu'il n'y ait pas un vent de révolte comme il y a eu en 2002, quoi?
Merci beaucoup, Mathieu, pour cette question. C'est vrai qu'on est sur deux planètes, hein, Gaël Sliman. Quand on se souvient de 2002 et qu'on compare à ce qui se passe 15 ans après, il y a de fait une banalisation absolue pour la qualification du Front National au deuxième tour.
Oui, et bien pire que 2002, c'était prévu depuis très très longtemps, alors que 2002, il y avait eu une surprise pour les gens. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu ce qu'on a appelé la dédiabolisation de Marine Le Pen. Je rappelle quand même que dans tous les sondages d'opinion, Marine Le Pen, à l'exception de Fillon ces derniers temps, mais est la personnalité la plus détestée par les Français, celle qui suscite le plus de rejets. Elle a aussi un socle d'adhésion très fort. Mais elle reste, à l'exception de Fillon qui a réussi de belles performances ces derniers mois là-dessus, la personnalité la plus rejetée en France. Donc il y a toujours un rejet, mais il est moins violent, il est moins virulent. Et puis il y a dans tous les électorats, on l'a vu aux États-Unis avec Trump et Hillary Clinton, il y a une demande de ne pas voter que contre. Il y a l'idée que c'est un peu facile de faire appel à ma voix sans jamais essayer de me convaincre positivement. Et puis, et là, en tant que sondeur, j'attire l'attention des auditeurs, il y a aussi parfois des leurres. Les sondages dernièrement donnent des rapports de force très favorables à Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. On est sur des rapports à 62-38, donc très larges. Mais la réalité, c'est pas celle-là, Nicolas. La réalité, c'est qu'on a 53% des Français, quand on leur pose la question, qui disent « j'irai voter, je vote Macron ». On en a un gros tiers qui disent « j'irai voter, je vote Le Pen ». Et puis les autres, en général, des gens qui sont très hostiles à Marine Le Pen, disent « oh bah, j'irai peut-être pas voter, ça sert à rien ».
Lénaïque Bredoux.
Dans la banalisation, il y a un élément assez qui l'illustre bien, c'est de dire par exemple que 60-40, c'est un rapport de force très large, parce qu'en 2002, c'est 80-20. Ben oui. Donc faut rien que ça, bien se sûr. Dire que aujourd'hui, ça veut dire que c'est large comme pour n'importe quel adversaire, face à n'importe quel adversaire, 60-40, effectivement. C'est un écart important face au Front National. Voilà, on voit bien, mais là où c'est banalisé, c'est que c'est de fait banalisé dans les votes des électeurs. Si on prend rien que les 5 dernières années, le Front National est passé de 18 à 26% au régional. Il est arrivé au second tour dans plusieurs régions de France. Donc de fait, et avant dans les élections départementales, dans les élections municipales. Donc le fait que le Front National soit un choix électoral pour un quart des électeurs, c'est-à-dire un quart de gens qui se déplacent et qui vont voter, est devenu de fait un élément structurant du paysage politique.
Rémi Lefebvre.
Oui, je pense qu'on est quasiment au terme de cette campagne, encore 15 jours. Mais moi, ce qui a quand même été très frappant, finalement, c'est cette banalisation. Souvenez-vous, dans ces débats, les deux débats qui ont été organisés, finalement, Marine Le Pen a déroulé son programme sans que vraiment ça suscite d'opposition. Pas de mouvement social, j'ai pas regardé les actualités aujourd'hui, mais il n'y a pas eu vraiment de mouvement de foule, etc. Les auditeurs se souviennent quand même qu'en 2002, il y a eu une mobilisation, une manifestation
absolument massive.
Je vais incarner un petit peu le nombre d'électeurs. Il y a 7,6 millions d'électeurs qui ont voté pour le Front National. Alors, on entend depuis hier, oui, le Front National n'a pas autant progressé que cela, mais quand même, c'était 6,8 au régional de 2015. C'était le record. Donc, on a une nouvelle fois battu le record. 7,6 millions, c'est absolument considérable. Voilà. Et on est finalement dans un système qui s'habitue, un système politique, qui s'habitue à cette extrême droite. Qui attendait cette qualification arrive, et puis là, quelle est la prochaine étape?
Gaël Sliman, encore un mot.
Oui, j'avais juste oublié de donner un élément quand même aussi, peut-être d'explication du pourquoi ça choque moins. Ça choque moins aussi parce qu'il y a une banalisation par rapport à ce qui est dit ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut quand même intégrer les campagnes de 2012 de Nicolas Sarkozy et la fin de campagne de François Fillon, où si on est un étranger ou un extraterrestre et qu'on vient écouter les discours, objectivement, c'est difficile de pas penser que le candidat des Républicains se situe plus à droite que le candidat du Front National. C'était pas du tout le cas avec Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen en 2002. Donc il y a ça aussi qui explique cette dédiabolisation du vote FN.
France Inter, 18h49, le téléphone sonne continue.
France Inter, le 18-20, le téléphone sonne.
Cécile, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Bayonne, bienvenue sur Inter.
Merci bien. Merci de prendre ma question, ou plutôt du coup donc mon observation. Mmh. Voilà, moi je voulais vous faire part, donc j'ai voté Jean-Luc Mélenchon, donc au premier tour. Et je voulais vous faire part, donc d'abord, tout d'abord de ma déception, à titre personnel et collective, au nom des 20% de Français qui ont voté pour lui, mais surtout de mon sentiment d'amertume, en fait. J'ai passé hier la soirée à regarder l'ensemble des commentaires politiques, et peu, voire aucun, ont en fait souligné la poussée de Jean-Luc Mélenchon, et a commencé notamment par les personnes du PS, et notamment Monsieur Hamon, qui n'a absolument pas souligné cette poussée dans son discours. Sincèrement, ça m'a choquée. Et aujourd'hui, on demande à Jean-Luc Mélenchon de se positionner, et en fait, il y a quand même un consensus pour dire c'est quand même choquant que Jean-Luc Mélenchon ne se prononce pas pour voter pour Marine Le Pen ou pour Monsieur Macron.
Donc je vais inverser les choses, Cécile. Vous n'avez pas été choquée que Jean-Luc Mélenchon ne le fasse pas?
Non, je ne suis pas choquée que Jean-Luc Mélenchon ne le fasse pas, puisque si on analyse l'ensemble de sa campagne et l'ensemble de sa vision, effectivement non, il n'a jamais demandé à des militants de penser des choses et de d'agir en son nom. Je pense qu'on est tous face à un choix qui est extrêmement personnel et on nous demande au nom d'un vote républicain de voter pour l'un ou pour l'autre. Moi, je ne m'y retrouve pas et je pense qu'on devrait inverser le raisonnement et se dire que le vote républicain devrait intervenir au premier tour, quand en plus on avait un candidat qui proposait quand même une vision d'une 6e République avec un renversement quand même d'un certain nombre de pouvoirs. Et je trouve que c'est vraiment... Alors, venir prendre en otage, c'est un mot que j'aime pas trop, mais j'ai... Enfin voilà, c'est vraiment un sentiment d'amertume ce soir parce qu'on ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon comme quelqu'un qui a fait une poussée qui représente aujourd'hui 20% de la population. Enfin, la France est divisée en quatre et on parle de François Fillon, on parle de Emmanuel Macron, on parle de Marine Le Pen et on se demande de se positionner. Franchement, moi, je suis embêtée aujourd'hui.
Mais vous faites bien, Cécile, de nous le dire, mais l'émission faisant une quarantaine de minutes et la France étant coupée en quatre, on a essayé de répartir les choses aussi grâce à vous et grâce à vos questions. Merci. Donc, le sentiment, un sentiment amer et puis pas de, Cécile soutient parfaitement la position de Jean-Luc Mélenchon, Rémi Lefebvre, qui n'a pas appelé à voter Emmanuel Macron hier soir, oui. Ce qui a suscité énormément de commentaires.
Ce qui est vrai, c'est qu'hier, il y a eu tellement d'enseignements dans ce premier tour de scrutin.
Et c'est pas fini.
Il y a eu évidemment la chute des partis de gouvernement, la progression, la qualification quand même de Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Et finalement, on a un petit peu passé par pertes et profits ce score très important de Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, ce qui m'a étonné, à la différence de l'auditrice, c'est que Jean-Luc Mélenchon lui-même n'est pas célébré son propre score lors de sa déclaration. C'est ça qui est assez étonnant. Il a eu comme une communication assez curieuse, assez tardive, un peu dans le déni de sa défaite. On sentait qu'il était très déçu, mais il aurait pu capitaliser cette victoire. C'est une victoire, c'est quand même la démarche de Jean-Luc Mélenchon depuis des années, c'est celle d'écraser le Parti Socialiste.
Mission accomplie.
Il a écrasé au-delà de ce qu'on peut imaginer et on a l'impression, alors évidemment il était déçu de ne pas être au second tour, mais on a l'impression qu'il n'a pas capitaliser politiquement cette victoire. Et lui-même les proches de Mélenchon qui étaient sur les plateaux ont été dans le même storytelling. Ils étaient un petit peu dans une espèce de ressentiment, de rancœur. Bon, il fallait peut-être pas demander quand même à Benoît Hamon, lui-même, alors déjà très accablé, d'en rajouter.
Et dire
félicitations Jean-Luc Mélenchon, vous nous avez rayé de la carte.
Bon, il n'en reste pas moins qu'effectivement Mélenchon, c'est une grande victoire. Il a gagné 3 millions de voix par rapport à 2012 et avec quasiment 20%, c'est un score.
Il est la gauche après le premier tour. Lénaïque Bredoux.
Effectivement, c'est vrai que cette déclaration a été assez étonnante parce qu'il a même pas fait quelque chose de son score. C'est-à-dire, il a pas dit voilà, maintenant nous sommes au centre, nous serons de toute façon les opposants du prochain président. Parce que par ailleurs, c'est la vérité. De fait, les insoumis, les 450 000 insoumis qui sont inscrits sur le site qui soutenait Jean-Luc Mélenchon seront les opposants au prochain président de la République, quel qu'il soit. Et donc, il sera l'acteur central de cette recomposition.
Bon, je vais donner la parole à Martine avant de la donner à Gaëlle Sliman. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir à tous.
On vous écoute, Martine.
Voilà, écoutez, moi j'ai pris votre émission en cours et j'ai cru comprendre qu'il y avait un représentant des sondeurs sur votre plateau.
Oui, Gaëlle Sliman.
Un compliment. Voilà, donc je voulais vous dire que j'avais participé à de nombreux scrutins. Je suis très étonnée de la place des sondages qui a été fait durant cette élection présidentielle. J'ai été même absolument heurtée hier soir à peu près à 21h, alors que les résultats officiels n'étaient même pas annoncés, je veux dire, qu'on était encore sur des estimations. Que déjà il y avait une estimation des sondeurs. Je voulais dire aussi que les sondeurs avaient choisi leurs deux candidats depuis des mois et des mois en tant que finalistes, quoi. Et je pense qu'ils ont une importance très grande parce qu'ils ont plus ou moins dirigé le vote utile dans la réflexion des citoyens. Voilà.
Merci.
Et je voulais vous dire également je n'ai pas voté au deuxième tour en fait parce que hier soir on annonçait toute la journée aujourd'hui on annonçait Macron à 60% et voilà, donc gagnant. Donc je me dis pourquoi je vais aller voter au deuxième tour. Et moi je vous pose la question, n'est-il pas nécessaire pour la démocratie de réglementer la participation des sondages le long d'une élection ?
Merci beaucoup Martine. Gaëlle Sliman vous répond.
Alors ce qu'il y a de marrant avec le téléphone sonne, c'est qu'on avait eu une émission a priori critique sur les sondages.
Et on ne la regrette pas.
Mais attendez. tous les auditeurs qui avaient appelé disaient mais non, ça fonctionne bien. Et là, au lendemain d'une élection où les résultats des derniers sondages sont...
La critique est différente. Vous avez guidé le vote utile.
J'ai bien compris. J'ai bien compris.
Vous avez guidé le vote utile.
J'ai bien compris.
Vous auriez pu vous tromper. Ça, bon, vous avez gagné une bataille, pas la guerre. Mais vous avez guidé le vote utile, qui est encore autre chose.
Alors, c'est une des critiques récurrentes qui est faite au sondage. Mais il y en a deux, en fait, dans ce que dit l'auditrice. Une, c'est une question d'opinion qui consiste à dire il y en a trop. Parce qu'elle a dit ça aussi. Elle a dit, ça prend une place démesurée. Les sondages prennent la place que les médias leur accordent et que la classe politique leur accorde. Et moi, j'ai tendance à penser que si on parle beaucoup de la course de petits chevaux et de la photographie de la course de petits chevaux, c'est parce qu'il y a trop souvent, pas assez dans les programmes, dans les personnalités, dans l'offre politique, d'éléments qui sont assez différenciants ou enthousiasmants pour les Français.
Il y en avait cette fois-ci.
Alors, oui. sur l'aspect économique, par exemple, un certain nombre de personnes interrogées nous disent qu'entre Emmanuel Macron et Alain Juppé autrefois, voire François Fillon, on est sur des questions d'intensité sur la politique
le
économique à mener.
Le vote utile, Gaël Sliman, avez-vous guidé le vote utile?
S'agissant du vote utile, il y aura toujours, d'abord on l'a mesuré, on a entre 14% et 18% des électeurs qui nous disaient qu'ils voteraient davantage en fonction du vote utile, c'est-à-dire pour faire gagner le candidat qui a le plus de chances dans leur camp, dans leur même famille politique, bien sûr, plutôt qu'en liaison avec le programme ou la personnalité des candidats. Mais ça reste la majorité. Et ensuite, si jamais vous souhaitez voter utile, entre guillemets, et si vous n'aviez pas de sondage, eh bien sur quoi vous seriez-vous amené à vous fonder? Sur les queues dans les meetings, sur les
il
y aura toujours du vote utile.
Bah, il faut vous avez la vu
alors
Lefebvre,
attendez, je vais juste finir là-dessus.
Non, parce
vous
qu'il
avez
reste
vu les filtres. Oui, mais je voudrais finir.
Vous
avez vu les filteries et les gov faire des annonces complètement fantaisistes, c'est eux qui auraient fait le vote utile. Vous avez vu les réseaux sociaux, c'est eux qui auraient fait le vote
Rémi
utile.
Rémi Lefebvre.
Oui, bah moi je peux pas croire un seul instant que si imaginons une campagne où il y aurait pendant 6 semaines, il n'y aurait pas eu de sondage, elle aurait sans doute pas produit les mêmes résultats. Je pense qu'on est vraiment les sondages ont quand même beaucoup pesé sur les discours aussi des hommes politiques. Mélenchon, qui critique les sondages, n'a cessé aussi de les invoquer.
Oui, disant l'horoscope est favorable.
Voilà. Cette température donnée par les sondages aujourd'hui, elle est quand même, qu'on le veuille ou non, polluante dans le débat public. Alors, on peut toujours dire que c'est l'effet du vide de l'offre politique, mais aujourd'hui, cette stratégisation du jeu politique, elle est quand même fortement indexée sur ces sondages, cette prolifération des sondages dans les commentaires.
Alors, les rolling tous les jours.
C'est pas la faute au son. Et les primaires aussi renforcent aussi ce mécanisme. Il faudra quand même se poser la question.
Lénaïque Bredoux, il nous reste 30 secondes, elles sont pour vous.
Non mais effectivement, c'est-à-dire que l'effet course de petits chevaux, transformation de la politique en une course de petits chevaux est renforcé complètement par ces sondages quotidiens qui en fin de campagne prennent toute la place dans la couverture médiatique et qui du coup posent un problème démocratique.
Merci Gaël Sliman, on pouvait pas faire une émission avec vous sans poser cette question.
Je pensais que celle-ci serait justement une émission un peu plus favorable.
Eh ben non.
Parce qu'on a passé trois mois à se faire taper dessus.
Bienvenue
on
au téléphone sonne.
Et bon, ok.
Merci Gaël Sliman, président de l'Institut de sondage Odoxa. Merci Lénaïque Bredoux, journaliste politique à Mediapart, et Rémi Lefebvre. On se retrouve après le journal de Sébastien Paour.
France Inter, le 18-20.
Avec la suite de notre édition spéciale au lendemain du premier tour de la présidentielle, on l'a vu depuis 18h15, il faudra beaucoup de temps aux chercheurs et aux spécialistes de la politique pour analyser l'ensemble du paysage politique qui en est issu. Et c'est valable pour les deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, valable aussi pour toutes les formations politiques, surtout le PS et le Parti Les Républicains qui sortent en vrac de cette présidentielle. Vous avez la parole, amis auditeurs d'Inter, des spécialistes du Front National, de la gauche, de la droite, attendent toutes vos questions jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Vous connaissez le numéro de téléphone 01 45 24 7000, franceinter.fr si vous préférez le mail, Twitter avec le mot-clé Telson pour les réseaux sociaux. Léa nous attend au standard, Léa de Paris, bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde.
On vous écoute Léa, bonsoir.
Alors, moi, je voulais revenir sur un sujet qui a été abordé tout à l'heure, notamment sur le fait que personne n'était vraiment choqué, en tout cas dans des moindres mesures par rapport à 2002, de la présence du FN au second tour et du sujet sur la dédiabolisation du FN. Et en fait, je me posais la question et je voulais savoir ce qu'en pensaient les personnes présentes dans votre émission. Est-ce que inversement, être choqué ou en tout cas diaboliser, pour prendre l'inverse, les personnes ou le fait que le FN ait fait ce score-là, ne stigmatise pas les électeurs qui ont voté pour le FN et qui sont assez assez nombreux en France, et ne renforce donc pas le discours principal de Marine Le Pen ou du Front National, qui se présente comme un parti anti-système pour justement des gens qui sont oubliés de ce système et stigmatisés.
Merci beaucoup Léa pour cette question. Invité du téléphone sonne jusqu'à 20h, Karine Bécard, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à France Inter, vous suiviez la campagne de François Fillon pendant le premier tour de cette présidentielle. Rémi Lefebvre est encore avec nous, professeur de sciences politiques à l'université de Lille 2, spécialiste du PS, des primaires, de la démocratie participative. Nona Mayer, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'extrême droite et du Front National. Que pouvez-vous répondre à Léa?
Oh ben, il y a au moins trois questions en une, donc
oui,
je vais essayer de les prendre
séparément.
Le fait est d'abord que le Front National a fait un score spectaculaire. Et ça, en soi, c'est pas un élément de diabolisation de cet électorat. Ça montre simplement qu'il y a une dynamique du Front National et qu'il répond à une demande d'une proportion croissante de Françaises et de Français, puisqu'on arrive quand même à 7,6 millions de voix, c'est un record. Et si vous calculez ça en suffrages exprimés, c'est le meilleur score à une présidentielle. Et si on le calcule surtout par rapport aux inscrits pour tenir compte de l'abstention, on est à plus de 16. Donc, chapeau. En soi, c'est pas du tout une diabolisation du Front National. En revanche, le même événement va être perçu de manière différente. Si on est du côté du Front National, on va dire, voilà, la preuve, c'est bien. Et si on n'est pas d'accord sur la ligne du Front National, si on n'est pas d'accord avec la préférence nationale, si on n'est pas d'accord avec l'idée que l'enjeu numéro un, c'est un, l'immigration, et deux, la sécurité, alors il va y avoir une peur et un rejet. Et c'est vrai, de ce point de vue-là, on peut parler de diabolisation. Et c'est même très intéressant parce que il y a encore 58% des Françaises et des Français qui estiment que ce parti est un danger pour la démocratie. Et curieusement, on aurait pu se dire, mais au fur et à mesure que leur score monte, cette image de dangerosité, elle devrait s'effacer. Eh bien, depuis que le Front National est, comme il le dit, le premier parti de France aux élections européennes de 2014, puis qu'il fait ses succès en 2015 jusqu'au régional, eh bien, cette proportion a augmenté au lieu de décroître. Mais là, c'est quelque chose qui échappe complètement. C'est pas un problème moral, c'est qu'on a deux camps qui n'ont pas la même image de la France. Et on pourrait continuer avec Emmanuel Macron, on a là deux idées, deux images de la société française radicalement opposées.
Et deux électorats stratosphériquement opposés.
On peut dire stratosphériquement, j'aurais pas utilisé ça, mais je trouve ça très joli.
Moi-même, j'en reviens pas.
c'est très très joli, mais effectivement... Et il y a plusieurs travaux qui ont montré que, bon, il y a un thème qui est très clair. Il y a ceux qui sont pour l'Europe d'un côté, ceux qui voient une menace de l'autre, ceux qui trouvent qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut sauter les frontières, ceux qui pensent qu'il faut se protéger, qu'il faut fermer les frontières. Et il y a aussi, et c'est intéressant, ceux qui, du côté d'Emmanuel Macron, sont optimistes par rapport à l'avenir, leur avenir et l'avenir de la France à 72%, et ceux qui, du côté des électeurs et des électrices du Front National, ont peur de l'avenir. Donc oui, ces deux visions opposées de la société, sans compter que sur le plan de la... Il y a un côté plus permissif du côté d'Emmanuel Macron, un peu plus répressif, autoritaire du côté de l'électorat de Marine Le Pen. Et puis enfin, on voit bien que les deux prennent des voix dans toutes les catégories de la population, mais dans le monde rural, dans les petites villes, il y a plus ce sentiment de peur, cette demande de protection et un vote Marine Le Pen beaucoup plus fort que du côté des grandes villes. Paris, juste un chiffre,
oui.
Paris, 35% pour Emmanuel Macron.
Moins de 5% pour Marine,
Le Pen.
Ouais,
donc la France est clivée. Oui.
Y a un vote de classe?
Oui. Oui, tout à fait. Si on raisonne maintenant, pas simplement en termes de revenus ou de diplômes ou de statut social, on voit que les catégories moyennes et supérieures ont été plus tentées par un vote pour Emmanuel Macron et que dans l'électorat populaire, et en particulier dans le monde ouvrier, on est aux alentours de 45-46% de votes pour Marine Le Pen chez ceux qui votent, parce que c'est un électorat dans lequel il y a moins d'inscriptions, toutes les études de l'INSEE nous le disent, et souvent la tentation de ne pas aller voter avec le sentiment que personne ne nous représente, nous, tout en bas.
Rémi Lefebvre.
Oui, je voulais juste, mais Nona l'a dit sur cette idée que les ouvriers votent massivement pour le Front National. C'est vrai sur ceux qui votent, mais effectivement, il faut intégrer aussi dans l'analyse le fait que beaucoup d'ouvriers ne votent pas. Il y a quand même eu une abstention, même si elle a été moins forte que prévu. Et donc, voilà, la première participation aujourd'hui des ouvriers, ça reste quand même l'abstention.
Karine Bécart, un mot.
Juste un petit truc, je trouve ça très intéressant que l'émission démarre sur une question sur Marine Le Pen, parce que je trouve malgré tout que globalement dans la journée et sur les médias, c'est pas forcément celle dont on a parlé le plus quand même, et notamment du Front National de manière globale. La personne qu'on découvre ce matin dans quasiment toute la presse, c'est surtout le visage d'Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que c'est le phénomène, il est très jeune, on n'imaginait même pas ça, son parti a moins d'un an, mais quand même, il y a quelque chose de très gênant médiatiquement qu'on en ait parlé aussi peu de Marine Le Pen aujourd'hui.
Nona Maillard, sur le traitement médiatique du Front National.
Oui,
alors
je
ce matin que... et peut-être aussi plus généralement. Hein.
Oui, mais je pense que c'était un effet de surprise parce que beaucoup, tellement, avaient prévu que c'était une bulle et qu'il allait exploser en vol, etc. Et effectivement, c'est peut-être dangereux même. Parce qu'il y a le sentiment que tout est joué. Non, tout n'est pas joué. On voit déjà les chiffres du deuxième tour. Attendons, il y a 15 jours de campagne. Il y a encore, tout va se jouer sur la mobilisation différentielle et c'est faire insulte aux électeurs et aux électrices des deux de faire comme si le jeu était joué d'avance. Il ne l'est pas.
Parce qu'on peut penser qu'il y a des électeurs qui n'ont pas voté, qui vont aller voter au deuxième tour, hein, comme c'est souvent le cas pour le Front National. Quand le Front National est au deuxième tour, il y a plus de personnes qui vont voter qui ne sont pas venues au premier tour.
Il y a une surmobilisation. C'est ça.
On verra, regardez ce qui s'est passé au moment des régionales de 2015, où là, entre le premier et le second tour, le Front National a mobilisé 800 000 électeurs électrices supplémentaires, mais la droite encore plus, quasiment 3 millions, alors que la gauche était déjà à son plus haut niveau. Autrement dit, tout va se jouer sur la mobilisation différentielle des électorats, et vraiment, il faut le répéter et le dire, rien n'est joué.
Oui, mais je vous trouve quand même optimiste.
Hein.
Alors, moi, je couvre la droite, comme l'a dit Nicolas Demorand au départ. Je vous assure qu'aujourd'hui, à 19h30, la droite, l'électorat de droite est assez perdu.
Je parlais des régionales de 2015. Tout le monde s'est perdu depuis.
Oui. Non, mais complètement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est compliqué quand même dans leur tête. Il y a effectivement une partie de l'électorat de François Fillon qui va se jeter dans les bras de Marine Le Pen assez facilement, je crois. On l'estime globalement, d'après certaines études, autour de 40%. Il n'empêche que ce soir, à discuter avec énormément de gens autour de François Fillon et bien au-delà, et de l'électorat, ils n'ont pas envie de voter Macron. Ils n'ont pas forcément envie de voter Marine Le Pen et il y en a beaucoup qui nous disent que dans 15 jours ils auront vraiment rendez-vous avec la pêche ou des amis ou en tout cas ou ce fameux week-end du 1er mai.
Enfin hier, c'est quand même j'ai été quand même assez frappé par l'importance du nombre de dirigeants de droite qui ont quand même appelé à voter pour Macron dès le soir du premier tour. François Fillon sans ambiguïté, il y avait Laurent Wauquiez qui effectivement a été flou. Est-ce que les électeurs vont suivre? Je pense que les scores de report au soir du premier tour et le lendemain, faut attendre un petit peu que les choses se décantent. Évidemment, quand on vient de voter pour son camp et qu'on est amené à sauter le pas, il faut un peu de temps pour maturer et on va voir comment les choses vont se décanter dans les jours qui viennent.
Allez, on retourne au standard. Bonsoir Pascal, vous nous appelez de Mulhouse, soyez le bienvenu.
Merci, bonsoir à tous et aux auditeurs et à vous.
Merci, bonsoir.
Bonsoir monsieur. Alors moi je vous appelle un petit peu par rapport au traitement médiatique qui est fait au Front National par rapport par les journalistes particulièrement bien évidemment, mais par les opposants au Front National, le président de la CFDT par exemple ce matin sur votre antenne, qui parle toujours de racisme, de xénophobie, d'extrémisme vis-à-vis du Front National. Je trouve que c'est un peu insultant et pour ne pas en dire plus quoi, vous voyez. Je trouve que on est un peu dur avec le Front National en général, et tous ces gens qui traitent le Front National ou les dirigeants du Front National de racistes, de xénophobes ou d'extrémistes ne demandent pas les preuves de ce qu'ils disent quoi, vous voyez.
Vous avez déjà voté pour le Front National, Pascal?
Tout à fait, oui, monsieur, oui.
Et donc, vous vous sentez, insulté quand on dit que les électeurs du Front National sont racistes et xénophobes?
Parce qu'il y a quand même 7 millions de gens qui votent pour le Front National et on se sent un peu humilié en tant qu'électeur, je dirais, quoi. Oui. Voyez, c'est un peu ça, voilà. Je trouve que on parle trop de haine, de racisme, de xénophobie. Et moi, très honnêtement, je trouve que Marine Le Pen, par exemple, ou les gens qui sont autour d'elle, ne me semblent pas être des gens racistes ou xénophobes ou extrémistes, quoi. Très honnêtement, quoi. Vous voyez. Et je trouve que c'est un procès un peu dur, quoi, qu'il aurait fait, quoi.
Permettez-moi, Pascal, deux questions. Vous me direz si elles sont indiscrètes. Pour qui avez-vous voté si vous avez voté hier? Et pour qui pensez-vous voter si vous votez dans 15 jours?
Alors donc j'ai voté pour le Front National.
Oui.
Pour, mais pour le programme, hein, pour les, je suis vraiment pour leur, les différentes mesures qu'ils proposent, au point du social, au point du même sur l'Europe, au point du social, les petites, aider les petits commerçants, les petits retraités, les femmes ou les gens qui sont veufs, par exemple, quoi, vous voyez, aider les petits gens, etc. Voilà, moi je vote vraiment pour les idées, le programme, vous voyez. Et si je savais qu'au Front National il y avait des dirigeants qui étaient foncièrement racistes, xénophobes ou extrémistes, bien évidemment je voterais plus jamais pour ces gens-là, quoi. Je ne pourrais pas, quoi, vous voyez. Autour de moi j'ai des amis qui sont d'origine turque. Jamais je pourrais être moi-même raciste ou xénophobe en votant pour le Front National, vous voyez. Donc je trouve qu'on est un peu dur en général vis-à-vis du Front National sur ce thème-là du racisme, de la xénophobie, de l'extrémisme, et il faut toujours faire barrage au Front National.
Ça vous insupporte quand vous entendez ça?
Un peu, monsieur, je vous cache pas, c'est vrai. Toujours barrage au Front National, on parle pas de faire barrage, par exemple, je sais pas, à monsieur Mélenchon ou à d'autres partis. C'est toujours le Front National vis-à-vis lequel il faut faire barrage, il faut unir tous les républicains pour faire barrage. Et honnêtement, je trouve que c'est un peu inéquitable, vous voyez.
Merci Pascal pour cette intervention que je livre à Nona Meyer.
C'est une intervention compliquée, mais là vous avez raison sur un point. Moi, je fais de la recherche et avec mes collègues chercheurs, on ne décide pas a priori de mettre l'étiquette raciste, xénophobe dans laquelle il y a des jugements de valeur. On se contente de voir quelles sont les réponses à des questions. Il y a une question qui est très intéressante qui est le sentiment qu'il y a trop d'immigrés en France. On peut répondre simplement à cette question qu'il y a trop d'immigrés. Il y a des moments où en France, ça varie entre 50 et 75% et toutes les personnes qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France ne sont pas nécessairement racistes, ils sont simplement polarisés sur cette question. Ce qui caractérise les électeurs du Front National, c'est pas que ce sont des racistes avec des cornes, c'est simplement que pour eux, cette question est plus importante que toutes les autres. Et c'est quelque chose qui est assez étonnant puisque dans nos enquêtes, on pose la question depuis 20 ans. Et à chaque fois, entre 90 à 98% de ces électeurs vont répondre qu'il y a trop d'immigrés. Et non seulement ça, ils vont ensuite considérer qu'au moment de voter, c'est une des motivations les plus importantes. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur du programme de Marine Le Pen et du Front National? La préférence nationale, l'idée qu'il faut réserver les emplois, les logements, les aides aux Français. Donc il y a un peu cette idée-là qui est derrière. On n'a pas besoin, nous on préfère plutôt que le mot raciste, utiliser un terme qu'utilisent les anthropologues, qui est celui de ethnocentriste. Les siens d'abord. Rester entre soi. Et de ce point de vue-là, je pense que ça correspond à une réalité. Et sinon, ce que vous dites, toutes ces étiquettes, ça fait partie de la guerre politique, de la délégitimation de l'adversaire. Et c'est vrai que le Front National n'est pas perçu comme un parti comme les autres, à cause de l'origine du Front National. Parce qu'en 1972, ce parti a été créé pour réintégrer toutes les composantes de ce qu'on disait à ce moment-là, appelé vraiment clairement l'extrême droite, toutes ces composantes, y compris celles qui n'étaient pas très reluisantes, parce qu'on avait là-dedans des anciens de l'OAS, on avait des personnes qui avaient été proches de la collaboration, de Vichy. Donc tout ça, c'est assez loin derrière. Les gens qui votent aujourd'hui pour le FN, très souvent, ils ont totalement oublié cette histoire. Mais tout ça pour expliquer pourquoi il y a quelque chose dans cette image, même si Marine Le Pen est allée jusqu'à rompre ouvertement avec son père et l'exclure.
Karine Bécard.
Après, ce qui est compliqué aussi, c'est le jeu que peuvent jouer certains politiques, et notamment, moi je m'en rends vraiment compte à droite, et là en particulier la campagne de François Fillon. On a quand même un François Fillon qui, pendant toute sa campagne, ses très longs discours, il n'a quasiment jamais rien dit contre Marine Le Pen, ou j'ai presque envie de dire des pichenettes habituelles qu'il envoie également à Jean-Luc Mélenchon ou à Benoît Hamon. On a en revanche des litanies très très longues contre Emmanuel Macron. Et puis, hier soir, on assiste à quelque chose de complètement insensé. C'est pour l'électorat de droite. C'est tout à coup, on a François Fillon qui dit « il va falloir voter pour Emmanuel Macron et il faut oublier complètement Marine Le Pen ». Ça ne peut pas être lisible, en fait, pour un électorat et encore moins pour des militants. C'était la consternation hier soir au QG.
Vraiment ? Ah oui ?
Ah, je vous assure, ils ne comprenaient pas.
Rémi Lefebvre, un mot ?
Oui, alors notre auditeur, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même parlé de social, il a parlé de petites gens, il a parlé des petits commerces, il a parlé des services publics. Donc effectivement, aujourd'hui, Nona Meyer a tout à fait raison, dans les enquêtes, le principal enjeu structurant du vote Front National, c'est l'immigration. Avec aujourd'hui une stratégie quand même d'euphémisation de Marine Le Pen sur ces enjeux, hein, de mots codés autour de la laïcité, autour de l'assimilation entre islam et terrorisme. Elle est moins frontale, même si pendant la campagne, elle a quand même, sur le Veldiv par exemple, elle est revenue un peu aux fondamentaux du père de son père. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres ressorts que le vote FN. Hein, il y a plusieurs usages possibles du vote FN. C'est un vote aussi très hétérogène, hein, qui peut être solidifié par l'immigration, mais finalement, des électeurs peuvent y trouver la défense des services publics, la défense des petites gens, la critique de l'Europe, et du coup, finalement, avoir l'impression que cette stigmatisation sur la question de l'immigration est injuste, parce que eux, leur usage du vote, c'est un autre usage, qui est un usage plus économique, effectivement, avec un programme, je crois que c'était le chercheur Gilles Ivaldi qui a montré quand même que 75% des éléments du programme du Front National pendant la campagne étaient plutôt à gauche. Hein. Donc il y a une offre politique, c'est pas complètement univoque, mais il y a une offre politique de gauche sur le plan économique qui est incontestable dans le projet de Marine Le Pen.
Nana Mayer.
Je suis absolument d'accord, et en fait je suis allée vite, donc j'ai pas répondu à la deuxième partie de cette intervention, mais bien sûr il y a une dimension sociale dans le programme de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle va protéger ceux qui sont oubliés, qu'elle va en particulier protéger ceux qui vivent dans des communes rurales ou dans des petites villes et qui ont le sentiment, on voit très bien que le vote FN augmente au fur et à mesure qu'on a le sentiment qu'on est loin des grands centres et qu'il n'y a pas de service public, qu'il n'y a pas d'école, qu'il n'y a pas de poste, bref, qu'on est abandonné du monde. Bien sûr, c'est une dimension, mais qui va avec. Parce qu'une des solutions, c'est de réserver les emplois aux Français. Mais vous avez tout à fait raison, et en plus, il y a d'autres mesures sociales, une prime pour le pouvoir d'achat, la retraite à 60 ans, l'idée qu'il faut réduire les prix d'un certain nombre de produits de grande nécessité. Autrement dit, oui, il y a une dimension sociale, ça ne date pas de
Marine Le Pen. Qui ne fait pas l'unanimité au sein du Front National.
Qui ne fait pas l'unanimité, mais qui était déjà présente en 1995. C'est le tournant vers les classes populaires du Front National qui date de ce moment-là, qui n'est pas nouvelle, mais qui s'est accentué avec Marine Le Pen dans un contexte post-crise de 2008 quand même.
Est-ce que, je rebondis sur ce que disait Karine Bécart, la manière qu'a la droite aujourd'hui, la droite républicaine, je dirais, la droite de gouvernement, François Fillon pour le nommer dans cette campagne, la manière donc de se positionner idéologiquement, c'est la ligne Wauquiez, Alain Juppé dit aujourd'hui qu'il faut changer, emmener la droite ailleurs. Est-ce que donc la manière dont François Fillon a fait campagne aujourd'hui, c'est du carburant, ou Nicolas Sarkozy hier, c'est du carburant, Nana Mayer, pour le Front National? Vous disiez que le parti était en dynamique. Est-ce qu'une partie de la dynamique est là?
La dynamique du Front National? Je suis pas sûre que ça soit ça. Non, là, vous me laissez assez perplexe
non, mais
avec cette question.
Est-ce que certaines lignes politiques dans la droite classique, qui se rapprochent quand même, qui viennent de manière tangentielle rencontrer le Front National, est-ce que ça, c'est du carburant ou au contraire, non, voilà, la dynamique du Front National, elle s'explique autrement?
La dynamique du Front National, il n'est pas dans un désert, elle dépend de la manière dont les autres partis se positionnent par rapport à lui. Et c'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites à travers toute l'Europe, pas simplement en France, parce qu'il y a beaucoup de droites similaires sur des programmes assez similaires. Chaque fois qu'on essaie de remettre les thèmes de ces droites au cœur du débat politique, même qu'on essaie de faire de la surenchère sur ces thèmes, à long terme, ça bénéficie à ces partis, parce que ça légitime leur thème et parce que ça décourage la partie la plus centriste de ces électorats. Il y a des études qui ont été faites en Suède au niveau des élections municipales, qui ont été faites au niveau européen pour des élections nationales. Donc oui, là, il y a vraiment quelque chose.
Rémi Lefebvre, puis Aurélien, au standard.
Juste un mot peut-être quand même pour dire que l'électorat quand même aujourd'hui de la droite conservatrice et libérale, il est âgé, il a du patrimoine, et que finalement, le problème aussi aujourd'hui de la droite, c'est aussi qu'elle ne capte plus du tout des milieux populaires qui pouvaient voter à droite précédemment. Et c'est vrai qu'en termes de stratégie, la stratégie Fillon-Wauquiez, c'est quand même qui est ce mélange de conservatisme sur le terrain des mœurs et d'ultralibéralisme sur le plan économique, quelque part entérine l'idée que les milieux populaires, alors même s'ils peuvent être attirés aussi par le discours libéral, finalement, c'est pour Marine Le Pen. Donc, je pense quand même que d'un certain point de vue, l'échec de Fillon, c'est aussi peut-être, c'est une question stratégique qui va être redoutable pour la droite, l'idée que finalement, elle a une capacité à fédérer qui est assez faible à cause de ce programme très libéral.
Je fais juste un petit point.
Karine Bécart, Nana Mayer et le standard.
Je trouve qu'on peut pas mettre Wauquiez et Fillon sur la même ligne, on est d'accord. Hein, je veux dire, Wauquiez, c'est vraiment la droite identitaire quand même, hein. justement très... très à la frontière du Front National, alors que la droite de Fillon, c'est vraiment la droite conservatrice, je ne sais pas ce qu'on a envie d'ajouter dans toute sa splendeur, oui voilà, bourgeoise. Et donc du coup, Wauquiez est effectivement là, pour moi, pour reprendre les propos de Nicolas Demorand, un carburant quand même, pour aller de porosité, et pour aller soit chercher des électeurs Front National, soit effectivement pour dire finalement voter Front National n'est pas très grave.
Non mais d'une certaine manière, ça veut dire qu'il y a deux écueils. Le premier, ça consiste à faire pareil, à faire de la surenchère. Et ça, à terme, c'est perdant pour les adversaires. Mais il y a l'autre écueil qui consiste à ignorer les aspirations légitimes de sa base. Et là aussi, il y a un écueil. Et au fond, en 2007, si Nicolas Sarkozy avait si bien réussi, c'est pas parce qu'il avait mis au cœur du débat l'immigration, l'identité, c'est aussi tout simplement parce qu'il proposait un programme positif. Il s'adressait à la France qui se lève tôt. Il disait « il faut travailler plus pour gagner plus ». Il faisait de la politique qui ne se réduisait pas à l'autre message. Autrement dit, il faut trouver un message spécifique. Il ne faut pas aller jouer sur le terrain de l'adversaire en politique. Il faut l'attirer sur le sien et il faut présenter quelque chose qui redonne de l'espoir à l'électorat qu'on vise.
Ce que ne sait pas faire Laurent Wauquiez, pour le coup. Là, il a déjà annoncé, qu'il fallait oublier les 2 points supplémentaires de TVA. On est vraiment juste dans la mesurette, on n'est pas du tout dans ce que vous êtes en train de très bien expliquer.
Aurélien, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez des Hautes-Alpes.
Tout à fait. Je vais peut-être rebondir un petit peu avant d'arriver à ma conclusion sur ce qui a été dit, en fait, par rapport à la dédiabolisation du Front National. Pour moi, ce premier tour, on n'a pas parlé de diabolisation, on n'a pas parlé de dédiabolisation. Pour moi, aucun débat n'a eu lieu autour du programme fondamental du Front National. Pour moi, chaque candidat, même les médias d'une manière générale, se sont désintéressés, je pense, systématiquement du programme, parce que pour eux, il y a une aberration. Il y a une aberration dedans. Hier soir, on a entendu tout le monde qui parlait de chaos, etc. Mais pour moi, la majorité des Français et la majorité... Je m'excuse pour Pascal qui a expliqué, qui est intervenu juste avant, mais pour moi, les fondements même du Front National ne sont plus expliqués aujourd'hui. Moi, j'en viens à mon intervention. Je travaille dans le bâtiment. Aujourd'hui, tous les jours, enfin jusqu'à aujourd'hui, puisque maintenant on en parle, mais je suis plus dépité qu'autre chose. Mais tous les jours, j'ai combattu oralement, bien entendu, contre certains de mes collègues, contre certains des personnes que je rencontrais, sur les fondements même du Front National. Ces personnes m'écoutent, ces personnes m'entendent, ces personnes me comprennent, mais elles n'enregistrent pas. À chaque fois, je leur dis, mais vous verrez bien. Ils disaient, mais non, d'où la dédiabolisation. Donc, j'en arrive à la conclusion que pour ce deuxième tour, je vous le dis, j'ai voté Mélenchon pour la première fois, malgré ses antécédents, où j'en ai beaucoup discuté autour de moi, de la personne en elle-même. Pour la première fois, je me suis reconnu dans certaines valeurs de partage, d'humanité, je vais pas en débattre plus, mais j'ai été convaincu pour la première fois et j'ai pas fait un vote contre ou un vote pile. Moi, mon deuxième tour à moi, il va être blanc. Parce que si les gens veulent Marine Le Pen, ou même s'ils veulent Macron, pour moi, ce débat n'intéresse plus. Maintenant, les présidentielles, c'est tous les 5 ans, les gens se manifestent tous les 5 ans, il y a un relan républicain tous les 5 ans. Et puis pendant le quinquennat, il se passe rien. Les gens n'en discutent pas. Les gens parlent Front National. Donc pour moi, excusez-moi, je
vous en prie, allez-y.
Pour moi, la suite du combat, ça va être tous les jours. Ça va être si ils veulent Marine Le Pen ou Macron. Hein. Donc, je pense que ce sera Macron, mais il aura pas mon vote. Je pense qu'il va être élu. J'espère pas à 82% comme notre cher monsieur Chirac. Mais pour moi, le combat, il va se continuer, entre guillemets, dans la rue, tous les jours. Ce deuxième tour ne m'intéresse plus, et cet élan républicain que tout le monde nous a parlé hier soir pour vaincre le Front National, excusez-moi, mais il fallait l'avoir pendant la campagne et bien avant.
Aurélien, merci.
Marine Le Pen, elle est là où elle en est, et je veux dire, c'est critiquer des centaines de milliers de personnes, de millions de personnes, comme Pascal juste avant, qui, pour moi, désolé Pascal, mais... n'ont pas suivi l'intégralité de la chose et la finalité qu'il va y avoir.
Merci Aurélien pour cette question substantielle et roborative. Nona Maillère, prenez des notes et dialoguez.
Oui, j'ai noirci toute une page. Non, oui. Mais d'abord, peut-être, je pense que vous êtes un peu injuste. Je pense qu'il y a eu des débats, notamment à la télévision. On a quand même eu un exercice assez particulier qui a été de décortiquer les programmes de tous les candidats, au risque de lasser certains téléspectateurs quand ça durait 2 ou 3 heures. Donc je pense que si on veut entendre, on pouvait savoir quels étaient les programmes, et en particulier celui de Jean-Luc Mélenchon et celui de Marine Le Pen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on comprend bien la déception qu'il peut y avoir. C'était dans un mouchoir de poche, les 4 candidats. Et effectivement, il y a eu une dynamique spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon. On comprend bien la déception, mais l'histoire ne s'arrête pas avec le deuxième tour de la présidentielle. Il y a des législatives après. Il va falloir réfléchir. Il n'y a pas que la rue. La rue, c'est important. Il y a les pétitions, le boycott, la vie associative. Il y a des milliers de manières de faire de la politique au jour le jour. Mais il faudrait quand même ne pas zapper sur les élections législatives, parce que rien n'est encore joué. C'est là qu'il va falloir voir lequel des candidats l'emporte et est-ce qu'il aura une majorité pour gouverner. Donc moi, je serais moins pessimiste avant de me résoudre au vote blanc. Je réfléchirais. En politique, très souvent, on ne vote pas pour, mais on vote contre. Peut-être qu'il faut estimer à regarder les programmes, justement. Qu'est-ce qui est le plus proche ou le plus loin de vos préoccupations ?
Aurélien disait, je parle avec mes collègues qui votent Front National. Ils entendent ce que je dis et ça ne change rien. Voilà, même dans le dialogue.
C'est ce qui m'intéressait dans l'intervention très riche de l'auditeur. Effectivement, ça m'a fait penser un peu au très beau film de Lucas Bellevaux qui est sorti il y a quelques semaines, qui a lieu dans le Pas-de-Calais, sur la banalisation. Et c'est cette idée que finalement, les idées du Front National deviennent partie intégrante d'un sens commun et évidemment des conversations ordinaires et se banalisent, et qu'au fond le discours qu'on entend en haut, le discours qu'on entend dans les médias, le discours qu'on peut entendre à France Inter ou ailleurs, c'est un discours qui est un peu déconnecté de ce quotidien où un peu s'imprime des automatismes de pensée. Et ça, je pense qu'aujourd'hui c'est une grande défaite de la gauche, c'est que la gauche, parce qu'elle a abandonné la bataille culturelle, la bataille idéologique, elle a abandonné aussi la politisation au quotidien par les militants, etc. Elle a laissé s'installer des idées, faute aussi d'éducation populaire, qui aujourd'hui aussi dans le contexte d'une démocratie hypermédiatique où il y a beaucoup de simplification. Alors c'est vrai que Nona a dit qu'on parle des programmes, mais il y a aussi beaucoup de simplification. Et finalement les discours ou alors des discours techniques, parce qu'on a eu des débats effectivement sur les programmes, mais c'est des débats qui sont quand même très techniques. Et à un moment donné, le sens politique se perd. Voilà. Et moi, c'est ça que je retiens de ce qu'a dit l'auditeur. C'est l'idée qu'aujourd'hui, il y a effectivement une droitisation d'une partie des électeurs, pas tous, parce que la thèse de la droitisation est fortement à nuancer sur toute une série de questions. Mais ce qu'enregistre le score du Front National, c'est cette banalisation. Et donc, ça appelle, je pense, pour la gauche, un travail intellectuel en profondeur qui est un travail colossal.
Nona Meyer, Karine Bécart.
Moi, c'est juste pour le plaisir de contredire. Mais il y a quand même aujourd'hui seulement, il y a juste simplement 30 et quelques pourcents de l'électorat qui se dit d'accord avec les idées du Front National. Et justement, une des raisons pour lesquelles, d'une certaine manière, Marine Le Pen n'a pas fait le score qu'elle pensait pouvoir obtenir, parce qu'on partait à 27% des intentions de vote en janvier, à 28% lors des régionales, c'est parce que des idées qui sont au cœur de son programme ne sont pas du tout partagées par une majorité de Français. Si on prend la préférence nationale, justement, chaque fois qu'on pose une question, est-ce que à qualification égale, il faudrait réserver les boulots, les aides sociales à un Français ou une Français plutôt qu'à un immigré, eh ben la très grande majorité, c'est non. Hein, et quand on parle de sortir de l'Europe ou de l'euro, la très grande majorité, c'est non.
Karine Bécart.
Un tout petit peu. Moi, c'est la fin, en fait, de l'intervention d'Aurélien. Non, c'est pas Aurélien. Enfin, bon, bref, de la personne qu'on vient d'avoir, de l'auditeur.
Aurélien.
Ce qui m'a plu, c'est la fin. C'est quand il dit, voilà, cet élan républicain qu'on me demande aujourd'hui, eh ben, c'est trop tard. J'ai pas envie d'y aller. Je ne voterai pas. J'en ai marre. Ça me fait revenir, du coup, sur ce qui s'est passé chez François Fillon hier. C'est tous ces vieux logiciels, finalement, dont les électeurs ne veulent plus. C'est, voilà, on a l'habitude, si le Front National est là, depuis 2002, Front Républicain, alors là, c'est la présidentielle, on a connu ça pour des élections intermédiaires. Les Français, enfin, c'est toujours compliqué de parler au nom de tous les Français, mais on a le sentiment quand même que l'électeur, les Français, n'ont plus envie de ça, n'ont plus envie qu'on les force à penser quelque chose. Surtout que on a quelque chose d'insensé, comme François Fillon, et je le disais tout à l'heure, c'est, voilà, on tape sur Macron, mais on dit à la fin de l'élection que c'est finalement pour lui qu'il faut voter. Tout ça est incohérent. Et finalement, je vais me faire vraiment de l'avocat du diable, mais j'ai presque trouvé Mélenchon terrible politiquement, mais tellement humain hier, en ayant du mal à reconnaître sa défaite, en ne voulant pas dire qu'il avait envie de, ou pas de voter pour Emmanuel Macron, parce que finalement, toute cette politique qui s'applique de manière systématique ne plaît plus. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment cette impression.
Si on prend les deux derniers auditeurs qui se sont exprimés au téléphone sonne, Jean-Luc Mélenchon, Aurélien qui a voté Jean-Luc Mélenchon, dit que l'idée de faire barrage, ça commence vraiment à le fatiguer et qu'il ne fera pas barrage, il ira voter blanc. Si on prend l'électeur précédent, Pascal, il avait voté Marine Le Pen au premier tour, votera donc très certainement pour elle au second, et nous dit aussi que l'idée du barrage lui est insupportable. C'est, je vais dans le sens de Karine Bécart, c'est vrai qu'il y a aussi là des éléments pour des gens qui votent très différemment, mais qu'il y a des éléments de fatigue démocratique face à ces réflexes conditionnés Rémi Lefebvre de dire on va faire barrage, barrage, barrage. Et en même temps, le barrage marche, si on veut.
Le barrage marche, mais le Front National continue à progresser. Je pense qu'il y a ça aussi, l'idée. C'est que c'est coûteux aussi, finalement, d'aller voter contre son gré, de donner l'impression que finalement, les batailles de campagne, tout d'un coup, sont évaporées et on va s'unifier à une espèce de concorde un petit peu artificielle. Et voilà. Peut-être que ça témoigne aussi du fait que les électeurs veulent reprendre le dessus sur leur vote. Ne veulent plus ces automatismes de pensée. Ça traduit une exigence démocratique qui est aussi intéressante, je pense. Et malheureusement, les professionnels de la politique ne prennent pas assez en compte. Je pense que les professionnels de la politique sous-estiment la compétence aussi politique parfois d'électeurs et les cas de conscience qu'ils se posent.
On retourne au standard. Martial, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Nicolas Demorand, je vous remercie de prendre mon appel.
Je vous en prie.
Pour votre émission, eh bien, écoutez, je m'éloigne un peu des chiens. Oui, alors rapidement, eh bien, écoutez, le vote était partagé à la maison. Moi, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon conformément à mes idées, hein, parce que je suis syndicaliste et voilà, ça a toujours été. Et donc, Monsieur Mélenchon ne me fait pas peur, loin de là. Et mon compagnon, mon mari, a voté Emmanuel Macron. Mmh. Donc, sans ambiguïté, dès hier soir, eh bien, j'ai décidé de voter Emmanuel Macron. Je n'ai pas attendu Monsieur Mélenchon. Je suis content que Monsieur Pierre Laurent ait appelé à voter au nom du Parti communiste pour faire barrage à Marine Le Pen, parce que ça sera vraiment le chaos. Hein. Je crois que la France est assez fracturée. Quand on regarde les cartes, c'est terrible. Mmh. Et puis, je veux dire aussi que j'étais extrêmement choqué des propos de Monsieur Poutou du NPA devant Léa Salamé en disant que bon, il n'y avait pas de consigne de vote, etc. et que bon, laissez faire. Ben non, il n'y a pas de troisième tour social. Il y a des tours d'élection nationale. Il y aura législative, comme l'a dit votre interlocutrice
non,
tout
la
à
manière,
l'heure.
Oui.
Voilà. Et puis, il y a aussi des négociations salariales, il y a des luttes sociales, oui. Mais je crois que sans reprendre les propos de Monsieur Raffarin,
Et donc pour vous, il faut faire barrage. Oui. Il faut faire barrage, Martial.
Bien évidemment. Pourtant, 2002, je vous dis, j'ai voté blanc. Je n'ai pas voté Jacques Chirac. Et bon, c'était très dur parce que il y avait tellement de consignes. Mais là, d'autant qu'on a eu Raffarin et Fillon avec les retraites, on sait ce que ça donnait. Hein, donc oui. Chirac n'a pas tenu. Là, c'est différent avec Monsieur Macron. Je pense que c'est la génération de mon fils aîné, hein, je vais vous dire, 78. Donc je peux vous dire que bon, eh bien écoutez, hein, finalement, tous les vieux politiques sont au tapis. C'est pas plus mal. Peut-être qu'il y aura une refondation et qu'on arrêtera de penser que pour soi, c'est-à-dire en tant qu'élu, en tant que petit baron, et regarder un peu ce qu'attendent les Français.
Merci Martial, merci pour cette intervention. Alors là, il faut faire barrage. Hein. On revient à ce qu'on disait Rémi Lefebvre, c'est encore une autre approche du même problème.
Voilà, un autre aspect de la typologie des électeurs qui est complexe. Et puis là, on a un vote de syndicalistes qui vote Mélenchon, mais finalement qui va voter Macron avec un certain enthousiasme parce que il va utiliser ce vote Macron pour envoyer un signal de renouvellement de la classe politique. Voilà, tout à l'heure, je crois, Nicolas Demorand, vous disiez que on allait travaillé pendant longtemps sur ces élections. Il est évident qu'aujourd'hui, les rationalités des électeurs, me semble-t-il, se sont complexifiées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des usages des votes qui sont, on le voit bien dans les entretiens approfondis qu'on peut faire avec des électeurs, ils vont mettre dans le vote des bricolés, des aspects qui peut-être défient notre rationalité, mais qui n'est pas forcément la bonne. Hein. En tout cas, on doit être attentif à celle des électeurs. Et là, voilà, c'est assez étonnant, finalement. Un vote Mélenchon enthousiaste et en même temps derrière, finalement, l'idée que Macron peut faire du bien pour le système politique.
Nona Mayer.
Moi, je serais assez d'accord. Je pense que c'est des élections pas comme les autres, dans lesquelles elles ont provoqué un intérêt politique absolument extraordinaire et qu'il en restera quelque chose. On a parlé politique partout et qu'il faut retenir comme message que la politique ne s'arrête pas le jour de l'élection et qu'il va falloir, en tout cas, essayer de demander que, quelle que soit la personne qui sera élue présidente de la République, on transforme les institutions et qu'on réfléchisse à une manière d'associer plus les citoyennes et les citoyens. Mais sinon, il faut faire tout ça soi-même. La politique, ça se fait au jour le jour. Hein, on peut résoudre les problèmes près de chez soi, tous les problèmes de solidarité, de concret, de lutte contre la précarité, etc.
Karine Bécart, quelques mots de conclusion ?
Non, forcément, c'est compliqué d'entendre quelqu'un qui dit il faut appeler à faire barrage. Moi, c'est vrai que de plus en plus, j'ai ce sentiment que les gens sont capables de faire leur choix parce que ils s'informent de plus en plus, ils sont très actifs dans la vie politique. Mais cela dit, voilà, ça confirme que les politiques ont le droit encore d'appeler à quelque chose. Ils sont encore écoutés par certaines personnes, c'est rassurant.
Merci à tous les trois. Nona Mayer, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'extrême droite. Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille 2. Karine Bécart, journaliste politique à France Inter. Merci, amis auditeurs d'Inter. Tout cela a été stratosphériquement, Nona Mayer, intéressant. Il est 20h.